Les colloques du Collège de France.
So we will start slowly the afternoon session with a talk by Nicolas Raymond. And so in Collège de France, it's quite traditional to have lectures in French. For instance, I have to teach my classes in French. So I gave the choice to lecturers between the two, and Nicolas will speak in French. But I think you accept questions in English, probably.
Of course.
Et donc, tu as eu le temps d'écrire tes formules ?
Non, pas encore, mais je vais le faire. Enfin, on est déjà assez en retard comme ça.
Oui, parce qu'il est déjà. Donc, voilà, Nicolas Raymond, de Angers.
Et Institut universitaire de France.
Et Institut universitaire de France, tu vas nous parler. Donc, plus voilà, la théorie les aspects semi-classiques de la théorie spectrale avec l'étude de l'effet tunnel entre deux puits purement magnétiques.
Ben, merci, merci de me donner cette occasion de présenter ce travail en collaboration. Et puis merci aussi de me donner l'occasion de parler en français. Que, comme on disait tout à l'heure, peut-être en 15 ans, je crois que c'est la seule fois où on me propose de parler en français à une conférence. Alors, comme disait un des premiers orateurs, j'ai osé parler en français. Alors donc, je vais vous parler d'effet tunnel. Donc je vais rapidement expliquer un petit peu de quoi il s'agit, donc de quelle partie de la théorie spectrale il s'agit notamment. Donc je vais parler de différents travaux, mais notamment du dernier travail vers la fin de l'exposé, en collaboration avec Soren Fournet, Yannick Gadès-Bontonneau et Léo Morin. Alors, comme l'intitulé de la conférence le suggère, à un moment, il faut quand même dire de quel grand objet on parle, par exemple, et puis de quel spectre. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, une petite introduction. De quoi s'agit-il ? Dans tout cet exposé, il va y avoir un opérateur qui va être l'objet de toute mon attention. Ça s'appelle le Laplacien magnétique. Donc, c'est un opérateur que je vais écrire LH et qui est un opérateur différentiel d'ordre 2 qui a la forme suivante. Donc, moins IH D1 moins 1 au carré, moins IH D2 moins A2 au carré. Donc, l'espace ambiant dans lequel il va agir, c'est l'espace L2 de R2. Donc on est en dimension 2. Alors il y a plusieurs symboles qui apparaissent déjà sur le tableau. Donc H, c'est un paramètre strictement positif qui s'appelle le paramètre semi-classique. Et dont le destin est de tendre vers 0 dans cet exposé. Et en fait, alors le A1, A2, c'est le potentiel vecteur. Donc c'est A1, A2. C'est une fonction sympathique de R2 vers R2, donc disons régulière. Ça s'appelle le potentiel vecteur et il est associé au champ magnétique qui ici est une fonction scalaire qui s'appelle B, qui est le rotationnel de A et qui ici est un scalaire puisqu'on est en dimension 2, donc D1 à 2 moins D2 à 1. Et ce champ magnétique ici, il sera supposé tout au long de l'exposé, tout le temps, ne jamais s'annuler. Et il va être plus grand qu'une constante strictement positive que j'appelle B0. Il ne s'annulera jamais. Et la limite H qui tend vers 0, en fait, vous pouvez prendre ce H, le factoriser, et mettre un H puissance moins 1 devant A1 et devant A2, ce qui revient à mettre un H puissance moins 1 devant B. Et donc c'est la limite du grand champ magnétique. Donc c'est ça le grand objet de l'exposé. Et ce qui va m'intéresser dans cet exposé, eh bien, c'est un cas un peu spécifique de champ magnétique déjà, donc le cadre, tout du long. Eh bien, B, il aura des minima en nombre fini. Ils sont tous non dégénérés. Et non atteints à l'infini. Et bon, je vais vous dessiner une fonction avec un unique minimum non dégénéré. Hop, voilà le champ magnétique. Donc là, vous avez B. Donc B de Q, variable d'espace, Q1 et Q2. Et le minimum, ici, bah, on va l'appeler B0. Et il est supposé strictement positif. Et c'est ça qu'on appelle un puits. Donc, un minimum non dégénéré donc, du champ magnétique. Oui.
Tu vas, ton exposé, ça va vraiment être en dimension 2.
Je reste en dimension 2. Et en fait, je me restreins à la dimension 2. Je ne parlerai que de cette situation dans R2. On pourrait regarder cet opérateur sur des domaines à bord, on pourrait le regarder en dimension supérieure, on pourrait supposer que, on pourrait imaginer que le champ magnétique s'annule sur des courbes, sur des hypersurfaces, on pourrait imaginer plein de choses, mais ce n'est pas ça dont je vais parler. Je vais parler de cette situation en dimension 2. Le fil directeur, c'est la dimension 2, et je vais me retenir de parler d'autre chose. Alors, ne m'encouragez pas. Alors, le but de l'exposé, c'est d'écrire le spectre. Voilà, il y a un grand objet et puis il y a son spectre. Le spectre de cet opérateur LH. Alors LH, je ne l'ai pas dit, il est équipé d'un certain domaine qui le rend auto-adjoint. Donc le spectre, il est formé de nombres réels. Donc décrire le spectre quand H tend vers 0 dans la limite semi-classique. Et il y a des choses qu'on sait depuis très longtemps sur cette question-là, pour ce modèle-là particulier. C'est qu'on sait que, on va dire ça comme ça, que le bas du spectre de LH, quand H devient assez petit, est discret. Donc le bas du spectre, essentiellement, il faut l'imaginer comme ça, des petites croix, et puis ensuite un continuum qui se trouve par ici. Donc là, vous avez lambda 1 de H, lambda 2 de H, lambda 3 de H. Donc ce sont des valeurs propres isolées de multiplicité finie. Sous ces hypothèses-là, on peut vérifier ça. Et le but de l'exposé, c'est de raconter ce qui se passe pour ces nombres quand H tend vers 0. Alors il y a une chose qu'on sait depuis très longtemps, on connaît l'asymptotique de la énième valeur propre quand H tend vers 0, et ça se comporte comme le minimum du champ magnétique, B0, multiplié par H, plus un grand taux de H carré. Donc pour chaque n, au moins égal à 1 fixé, vous fixez n, et vous faites tendre h vers 0, et l'asymptotique à un terme, c'est b0 fois h. Et ça, c'est connu depuis exactement 30 ans, cette année. Donc ça, c'est Helfer, Moram, 1996. Vous avez quelque chose comme ça. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est énoncé. Ce n'est pas aussi précis que ça du point de vue du reste, mais essentiellement, les stratégies qu'ils utilisent peuvent être utilisées pour démontrer ça.
Ce que tu as dit, c'est que le spectre continu, il commence beaucoup plus.
Il commence, en fait, si vous avez une limite inférieure ici à l'infini pour B, vous l'appelez B infini, ça commence à B infini fois H. Ça dépend du comportement de B à l'infini. Et en fait, ce qui va m'intéresser particulièrement, en fait, c'est ça le cœur de l'exposé, c'est les questions d'effet tunnel, c'est l'influence des symétries sur le comportement de ces valeurs propres. Yes.
How many of these discrete eigenvalues are there when h goes to zero?
If you fix n equal to 10, when h is small enough, you have at least 10 eigenvalues in the discrete spectrum. I will give you an explicit description of that a little later. So, influence des symétries. Des symétries, donc du champ magnétique. Donc, sur l'asymptotique spectrale. Et notamment, bon, je vais faire un petit dessin. Donc, la situation qu'il faut imaginer et qui moi m'intéresse particulièrement, c'est la situation où on a un double puits, donc deux puits comme ça. Donc, vous avez le champ magnétique avec son double puits. Donc, vous avez 0, Q1, Q2. Tout le monde est arrivé. Le minimum est à B0. Voilà. Donc, ça c'est B. Et ici, vous avez un axe de symétrie. L'axe Q1, c'est un axe de symétrie pour le champ magnétique. La question, c'est quelle est l'influence de cette symétrie sur le comportement des premières valeurs propres. Bon, ce qu'on pourrait imaginer un peu naïvement, c'est que s'il y a une symétrie, ça devrait se refléter dans les valeurs propres. Une symétrie axiale comme ça, on s'imagine que les valeurs propres vont devenir doubles. Bon, en tout cas, leur multiplicité va doubler. Alors, on peut comprendre ça au moins un petit peu intuitivement. Alors, il y a une inégalité qui est bien connue en dimension 2 sur cet opérateur, donc LH. On peut montrer qu'il est plus grand au sens des formes quadratiques que l'opérateur de multiplication par le champ magnétique. Donc ça, s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler des opérateurs de Dirac, ça traduit le fait que le carré de l'opérateur de Dirac magnétique est positif. Et c'est une façon directe de voir ce genre de choses. Ça peut aussi se voir en calculant des commutateurs entre les deux dérivés magnétiques qui sont ici, moins IHD1, moins A1 et moins IHD2, moins A2. Vous faites le crochet des deux champs de vecteurs et ça vous fait le champ magnétique. Et c'est une façon de montrer ça. Alors, ça a toutes sortes de conséquences, cette inégalité. Notamment si on imagine, je ne fais pas de choses rigoureuses, si on imagine que vous faites agir cette inégalité sur des fonctions test qui sont les fonctions propres elles-mêmes. Par exemple, la plus petite des fonctions propres associée à la première valeur propre. Vous prenez lambda 1, et en fait ça vous dit quelque chose sur les fonctions propres, cette inégalité. Ça vous dit qu'elles ne vont être significativement existantes que là où lambda 1 de h est plus grand que h fois b de q. Elles vont exister par là. On l'imagine. Et puis lambda 1, si on suit Elfer et Meuram, c'est B0H plus grand taux de H carré. Et ça vous dit que bon, ça cet ensemble, en fait, c'est l'ensemble des Q tel que vous avez ceci qui est plus petit que C fois H, si je divise tout par H. Ça vous dit que les fonctions propres, en tout cas celles qui correspondent aux plus petites valeurs propres, elles vont avoir une petite tendance à être très localisées dans cette zone-là. Alors, si on regarde sur le dessin, quand il y a deux puits, eh bien, vous mettez une petite zone de taille H un petit peu au-dessus, B0 plus constante fois H, eh bien, elles vont être localisées dans ces petites zones-là, autour des puits magnétiques, et la zone caractéristique, c'est H puissance 1,5, c'est racine de H. Puisque on suppose que les minima de B sont non dégénérés, donc ça, près du minimum, ça se comporte comme une fonction quadratique, et donc les fonctions propres, on attend à ce qu'elle soit localisée dans ces deux puits, quand H tend vers 0. Je n'ai rien démontré. Et en fait, ce que ça dit aussi, c'est qu'on imagine qu'elles vont être très petites. Donc on écrit grand taux de H infini, ça veut dire qu'en norme L2, dans cette zone-là, intermédiaire, si vous calculez norme L2, elles vont être plus petites que n'importe quelle puissance de H donnée d'avance. On peut rendre tout ça rigoureux. Et alors,
tous ces grands taux de H carré, ils sont tous positifs ou...
Alors, il se trouve qu'ici, effectivement, ils sont positifs parce qu'on est en dimension 2 à cause de l'inégalité qui est là, puisque ça, c'est toujours plus grand que h fois b0. C'est la magie de la dimension 2. Et donc, si on imagine que, si vous me croyez, que les fonctions propres sont très petites sur l'axe de symétrie ici, eh bien, très petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'on imagine qu'elles sont nulles si on les représente. Donc, on imagine qu'on a une condition de Dirichlet ici. Mais si on avait une condition de Dirichlet, en fait, on aurait deux copies du même problème, un problème à un puits ici, un problème à un puits là, et le spectre de cet opérateur à double puits, ce serait en fait la somme directe de deux copies du même opérateur. Et donc les valeurs propres seraient exactement doubles. Or, ce n'est pas vrai que les fonctions propres sont nulles, ici, en plein milieu. Bon, ça, c'est un peu gratuit comme affirmation, ça va venir de la suite de l'exposé. Mais le fait que... Le comportement, par exemple, de la différence des deux premières valeurs propres, en fait, il va être lié à la petitesse et au comportement des fonctions propres dans la zone intermédiaire. Et donc, on voudrait savoir quel est ce comportement. Et puis, notamment, de savoir si la première valeur propre est simple ou pas. Parce que s'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de la théorie spectrale des opérateurs de Schrödinger avec un potentiel électrique, on sait que l'état fondamental est toujours une valeur propre simple à cause du principe du maximum. Ici, le principe du maximum ne s'applique pas parce que l'opérateur ici, c'est un opérateur à coefficient complexe. Vous avez un i qui traîne dans les équations, donc on ne peut pas utiliser ces résultats. Donc la question c'est, est-ce que ceci s'annule ou pas, et est-ce qu'on peut donner un équivalent? Alors justement, ce genre de question, ça peut rappeler ce qui se passe avec le Laplacien électrique. donc qui est un opérateur qui a un petit air de famille avec celui-là. Ça pourrait évoquer ce qui se passe, ce genre d'opérateur et la théorie spectrale de ce genre d'opérateur. Alors, il se trouve que la description du spectre, des valeurs propres pour ce genre d'opérateur, et notamment quand il y a des symétries, ça a été grandement étudié il y a fort longtemps, il y a 40 ans, par Elfer et Geostrand, dans une longue série d'articles. Et pour être complètement honnête et rigoureux, il faut aussi évoquer les travaux de Simon, qui étaient à peu près en parallèle de ceux d'Elfer et Geostrand à cette époque, où ils ont donné une description, par exemple, dans un cas d'un double puits, si on imagine que ça c'est un double puits pour un V, ils ont donné une description explicite de l'écart spectral entre les valeurs propres. Et ce qu'ils ont fait, si on veut résumer en deux idées, ils ont fait ce qu'on appelle des estimés d'Agmon pour décrire la localisation exponentielle des fonctions propres au fond des puits. C'est la localisation exponentielle des fonctions propres.
Et alors ce Agmon, pourquoi il a son nom dans l'affaire ?
Eh bien, parce que Agmon s'est intéressé à la décroissance exponentielle des fonctions propres pour des opérateurs elliptiques d'un certain ordre quand il n'y avait pas de paramètres semi-classiques. Et c'est les premières notes, les lecture notes de Agmon, si vous allez jeter un petit coup d'œil, il n'y a pas de H dedans. Et ce qu'on fait, Elfer et Geostrand, c'est rajouter le petit H et voir quelles conséquences ça avait sur la localisation des fonctions propres dans la limite semi-classique. C'est ça qu'ils ont fait. Alors Agmon, d'ailleurs, a eu une assez longue vie. Et il nous a quittés l'année dernière, à 103 ans. Donc il y a une première idée, c'est de quantifier cette décroissance exponentielle, donc par les fameuses estimées d'Agmon. Et la deuxième chose qui est la plus importante et la plus subtile, c'est d'être capable de donner des équivalents des fonctions propres quand on s'éloigne des puits vers le milieu, d'avoir des équivalents des fonctions à cet endroit-là. Donc des estimations fines. Des fonctions propres. Loin du puits, ou loin des puits. Et ça peut être fait par une approximation dite BKW. Donc B c'est pour Briouin, K c'est pour Kramers, W c'est pour Wenzel, et on fête les 100 ans des trois articles de ces trois personnes cette année. Voilà. Ils ont écrit leurs trois papiers quand Agmon avait 4 ans. Alors, je ne vais pas en dire plus. Et dans le cas magnétique, on peut se poser des questions tout à fait similaires. Et il y a en fait très peu de résultats dans la littérature qui expliquent ce qui se passe pour des puits purement magnétiques. Et en fait, sur le dessin que j'ai fait, jusque l'article dont je vais vous parler maintenant, on n'avait aucune idée de ce qui se passait entre les puits. Et peut-être je voudrais dire que je suis déjà en train de vous tromper. Vous vous souviendrez après. Alors,
tu as dit que c'est vraiment parce que l'opérateur il a un coefficient complexe que ça fait une énorme différence.
Ça fait d'énormes différences parce que le fait qu'il y ait des coefficients complexes, ça fait que les fonctions propres vont avoir des comportements très oscillants. Non, ce qui n'est pas le cas quand tout est réel. Alors, il y a aussi un truc à retenir de Elfer et Geostrand, c'est que le problème n'est pas tant de comprendre ce qui se passe quand il y a deux puits que quand il n'y en a qu'un seul. Ce qu'il faut, la clé pour l'effet tunnel, c'est de comprendre la théorie spectrale et ce qui se passe pour les fonctions propres quand il n'y a qu'un seul puits. Comment elles décroissent exponentiellement hors du puits et comment est-ce qu'elles sont approchées à une distance finie d'ordre 1 du puits. La clé se trouve à cet endroit-là. Alors, pourquoi ? Parce que si vous imaginez que vous bouchez, par exemple, le puits de droite, vous n'avez plus qu'un seul puits, et vous avez, par exemple, un état fondamental associé à ce puits-là, qui est très localisé au fond du puits à gauche, à cause de ce qui est écrit ici. Vous pouvez faire pareil avec l'autre puits. Vous gardez ce puits-là, vous bouchez l'autre, et vous avez l'état fondamental du problème à droite. Vous avez deux vecteurs, et puis vous pouvez écrire la matrice de l'opérateur à double puits dans la base formée par ces deux vecteurs associés au problème à simple puits. C'est très formel, hein, je ne dis rien de très rigoureux, mais on se réduit à la théorie spectrale d'une matrice qui a cette forme-là, en utilisant une quasi-base orthonormée basée sur les fonctions propres des problèmes simples puits. Et on est capable de dire que le spectre de l'opérateur LH, ben c'est à peu près le spectre d'une matrice de 2 de cette forme. Et là, bon, ça c'est là l'exposé redevient rigoureux. Les valeurs propres de cette matrice sont ces deux nombres. Et le trou spectral, lambda 2 moins lambda 1, il est donné par le terme extradiagonal qui se trouve ici. Et ce terme, W, en fait, si on peut le calculer explicitement à l'aide des fonctions propres des problèmes avec un seul puits, eh bien, le W, c'est quelque chose comme le produit scalaire entre une fonction propre du problème à droite et quelque chose comme une fonction propre du problème à gauche. Et donc, si on sait exactement comment elle se comporte dans la zone intermédiaire, on va avoir un équivalent de W et donc du trou spectral. Ça, c'est le schéma vraiment très, très général. Alors, qu'est-ce qu'on sait, du coup, bah, quand il n'y a qu'un seul puits ? Puisque il semblerait que tout le problème soit là. Alors, je vais énoncer un théorème. Alors, donc on va supposer qu'il n'y a qu'un seul puits, donc un unique minimum non dégénéré pour B. Et voici à quoi ressemblent les valeurs propres, donc ce qui va donner une précision sur les valeurs propres quand H tend vers 0, comment un peu elles sont réparties. Alors on va voir apparaître un trou spectral, donc le fait que la différence entre les valeurs propres est non nulle quand H tend vers 0. Alors je vais mettre petit o de H carré, et je vais dire qui sont les nombres D0 et D1. Ou D0, eh bien c'est lié au fait que le minimum est non dégénéré, eh bien c'est 1 sur B0 fois, alors c'est la racine carrée du déterminant de la dérivée seconde de B, donc en 0, et c'est un nombre strictement positif, et D1, bon, il est connu explicitement, mais tout ce que je vais retenir, c'est que c'est un nombre réel. Et donc ce qu'on voit ici, quand il n'y a qu'un seul puits, eh bien, c'est que, par exemple, la différence des deux premières valeurs propres, bah, c'est à peu près quelque chose comme h carré. Notamment, la première valeur propre, lambda 1 de h, elle devient simple quand h tend vers 0. Ça, c'est une conséquence de ce théorème. Ce théorème, sous cette forme-là, il apparaît la première fois dans un article d'Elfer et Kordukov. En 2011, et sous une forme en fait plus précise et plus géométrique, dans un travail qu'on a réalisé avec San Van Gogh en 2015, il y a un peu plus de 10 ans. Et alors que je voudrais dire quelques mots de ce qu'on a fait avec San en lien avec cette asymptotique spectrale. Là, je n'arrête pas de dire le mot magnétique toutes les deux minutes. Et j'imagine que ça vient dans votre esprit avec des images. Là, je vais représenter les lignes de niveau du champ magnétique, qui c'est une fonction scalaire et qui a un minimum non dégénéré. Et maintenant, on va imaginer le dessin qu'on imagine quand on a un champ magnétique et qu'on a un électron dans ce champ magnétique. Le champ magnétique pointe vers vous. La dynamique classique, elle fait ça. Vous avez un petit mouvement de rotation instantanée qui s'appelle le mouvement cyclotron, et vous avez un mouvement de dérive qui est un mouvement en fait quasi hamiltonien le long des lignes de niveau du champ magnétique. C'est la dérive centre-guide. Et ce qu'on a fait avec San, c'est de connecter l'analyse de dynamique classique, donc dans un champ magnétique, à la dynamique, la théorie spectrale de l'opérateur de Schrödinger magnétique. On a montré en fait que ce B0 fois H représente en fait l'approximation cyclotron dans un temps très court. Et que l'écart spectral entre les deux valeurs propres, qui se trouve ici dans ce terme-là, il est lié à la quantification de la dynamique le long des lignes de niveau du champ magnétique. La séparation se fait à travers ce mouvement de dérive. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas dans Elfer et Kordiukov. Et ce faisant, donc, on a mis en œuvre une stratégie qu'on appelle les formes normales de Birkhoff. Je vais au moins écrire ça. Qui permet en fait de voir le laplacien magnétique comme une fonction d'un oscillateur harmonique qui est le mouvement cyclotron. On peut voir cette quantification donc avec le théorème d'Egorov et en utilisant ce principe des formes normales de Birkhoff qui existe déjà au niveau classique pour décrire la dynamique. Et ce qu'on a fait notamment avec SAN, c'est non seulement de décrire les valeurs propres une par une, mais étant donné une certaine fenêtre d'énergie donnée d'avance, on est capable de diagonaliser complètement le laplacien magnétique dans cette fenêtre et de décrire entièrement le spectre. C'est ça qu'on a fait, et ce n'est pas seulement les asymptotiques une par une des valeurs propres. On peut avoir une description collective des valeurs propres. Alors, incidemment, avec SAN notamment, on a montré une chose sur les fonctions propres. C'est un fait. Les fonctions propres, on a montré qu'elles étaient micro-localisées. Je vais dire ce que ça veut dire. Elles sont micro-localisées. Près d'un point de l'espace des phases, QP, qui est donc Q égale 0, c'est le minimum du champ magnétique, et P, ça va être A de 0, la valeur du potentiel vecteur en 0, au minimum du champ magnétique, à l'échelle racine de H. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en espace, les fonctions propres, elles sont localisées à l'échelle racine de H près du minimum. C'était le dessin que j'ai effacé tout à l'heure. Donc on retrouve ça. Mais on sait aussi que la transformée de Fourier semi-classique, où vous mettez un petit paramètre H dans la transformée de Fourier, elle est localisée près d'un point aussi du côté de la transformée de Fourier. Elle est localisée là aussi, la transformée de Fourier. Et une question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que cette localisation qu'on obtient ici, donc c'est une localisation assez grossière, qui vous dit qu'en dehors du minimum, on est grand O de H infini. C'est ça qu'on a montré avec SAN. Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on n'a pas de la décroissance exponentielle loin du puits? Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée, et à laquelle on a répondu sous certaines hypothèses. Donc ça, c'est un théorème avec Yannick Guedes-Brontonneau et San Vungok. Donc ça, c'était Guedes-Brontonneau, moi-même, San Vungok, et c'est encore un peu plus récent. Donc on arrive vers le présent au fur et à mesure de l'exposé. Et donc, ce qu'on a montré, c'est si on fait des hypothèses d'analyticité sur le champ magnétique, eh bien, on peut, et qu'on regarde des valeurs propres qui sont, disons, qui se comportent comme les premières valeurs propres, si on regarde des valeurs propres comme ça, les fonctions propres satisfont ce genre d'inégalité. Donc là, vous intégrez sur R2, on est en espace. Alors peut-être pas assez, ici je vais l'appeler M. Hop. Que vous pouvez trouver une fonction D qui se comporte quadratiquement près du minimum, qui est en 0 ici, donc ça c'est à peu près la même chose que ça, au voisinage de 0. Vous pouvez trouver une fonction D qui a cette propriété-là. Et ça traduit le fait que psi est exponentiellement localisé près de 0. C'est-à-dire que si vous éloignez à une distance 1 de 0, les fonctions propres décroissent comme exponentielle moins constante sur H. C'est ça que ça dit. Alors ça peut évoquer les estimés d'Agmon, pour ceux qui les auraient déjà vus. Et ce ne sont pas des estimés d'Agmon. Enfin, pas vraiment. Parce que si on mettait en œuvre la stratégie qui est dans Elfer-Jostrand, qui est basée sur mettre le paramètre semi-classique dans les estimés d'Agmon, on arrive avec un racine de h quand on fait toutes ces estimées, et on obtient ça en quatre lignes de calcul élémentaire, avec des intégrations par partie. Mais la nouveauté ici, c'est qu'on peut mettre le h. Et ce n'est pas les estimés d'Agmon au sens classique, disons, des années 80, qu'on a mis en œuvre ici. C'est un autre outil qu'on a utilisé et qui est lié au fait qu'il faut regarder ce qui se passe dans l'espace des phases. Donc ce qu'on a fait, je ne donne aucun détail, hein, c'est juste, ça fait un peu le bestiaire de tous les outils de l'analyse semi-classique qui se déploie petit à petit. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle la transformation de FBI, ou la transformation de Bargmann, on a plein de noms. Donc FBI, donc Fourier-Brauss-Jagolnitzer. Qui consiste à prendre votre fonction propre, qui est une fonction de x, et de la remplacer, et de la décomposer en état cohérent. C'est l'autre nom de cette transformation. Et ça revient à lui associer la transformée de Fourier-Brauss-Jagolnitzer, qui est une fonction qui dépend à la fois de la position et de la variable de Fourier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'équation propre, comme ça, par exemple, associée à la première valeur propre. Et on fait comme on ferait si c'était la transformée de Fourier, c'est-à-dire qu'on applique la transformation à l'équation, et donc vous obtenez un nouvel opérateur, je vais lui mettre un tilde, qui agit sur la transformée de FBI, qui fait quelque chose comme ça. Vous pensez ça comme une transformée, en fait T c'est une transformée de Fourier avec un poids exponentiel à l'intérieur, c'est complètement explicite. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que L tilde? L tilde, c'est plus un opérateur différentiel, comme le Laplacien magnétique l'était, ça devient un opérateur pseudo-différentiel. La fonction t psi, là, elle a deux fois plus de variables que la fonction psi. Et cette fois-ci, cet opérateur, c'est un opérateur qui agit sur L2 de R, qui agit sur L2 de R4, et plus de R2. Et ensuite, on met en œuvre les estimés d'Agmon pour cet opérateur. On montre la décroissance exponentielle dans l'espace des phases, et ensuite, on utilise le noyau de la transformation de Bargmann pour revenir en arrière, on utilise la décomposition en état cohérent pour la traduire comme une décroissance en espace. Et c'est ça qu'on a fait. Donc c'est beaucoup plus subtil les effets de localisation dans le champ magnétique que dans le cas électrique. C'est quelque chose qui est lié à ce qui se passe avec la transformée de Fourier des fonctions propres qui est en jeu. Et j'arrive petit à petit au résultat principal. Et je voudrais encore énoncer un autre théorème. Celui-là, c'est avec Yannick. C'est qu'en fait, on peut même résoudre l'équation propre avec une construction BKW. Alors, qu'est-ce que c'est une construction BKW? On peut trouver, on va dire ça comme ça, on peut trouver une fonction phi à valeur complexe, mais donc une fonction de R2 vers C, et une fonction A, qui est une fonction qui dépend de l'espace et qui dépend aussi du paramètre semi-classique, c'est infini, tel que la chose suivante est vraie, LH moins lambda 1 de H, appliqué à exponentielle A de X H, exponentielle moins phi de x sur h égale quelque chose qui est presque zéro, grand taux de h infini, exponentielle moins phi de x sur h. Et la fonction phi, au minimum du champ magnétique, eh bien, la partie réelle de ça est sienne, est positive. Donc on a une espèce de solution peu formelle de l'équation propre. Et donc on arrive Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans le cas du Laplacien électrique, je vous ai dit qu'il y avait deux ingrédients chez le Laplacien. La décroissance exponentielle des fonctions loin du puits, avoir une estimée qu'il a décrit, et avoir une approximation à bonne distance du puits par une espèce de construction BKW. Et on est donc a priori très content, puisque je suis en train de vous dire que dans la littérature, il y a deux théorèmes qui répondent à cette question. Et bien on va pouvoir les oublier, et je vais énoncer le théorème principal, et je vais essayer d'expliquer pourquoi ceci ne va pas nous aider.
Mais vous l'avez fait dans l'espoir que ça vous aiderait.
Exactement. On a fait ça pendant plusieurs années, dans l'espoir que ça marche comme ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai trompé. Je parlais du Laplacien magnétique et du potentiel du champ magnétique comme si c'était un potentiel électrique. Mais il y a une différence essentielle, même au niveau classique de la dynamique. Quand vous avez un puits de potentiel comme ça, je vous ai dit, avec le champ magnétique, vous avez une dynamique comme ceci, qui suit les lignes de niveau. Pour un potentiel électrique, c'est pas ça. Ça fait des oscillations internes au puits et ça tourne petit à petit. C'est comme une espèce de mouvement de pendule. Donc la dynamique n'a absolument rien à voir. Donc chez le Laplacien, on a besoin de connaître la décroissance exponentielle des fonctions dans toutes les directions pour comprendre comment on va franchir la barrière de potentiel électrique. Dans le cas du champ magnétique, c'est pas dans toutes les directions qu'on a besoin d'avoir une information. Ce qui nous permet de passer du puits où je me trouve au puits où se trouve Julien, par exemple. Ce sera la victime. Vous avez cette trajectoire qui vit ad vitam aeternam autour de moi, mais au niveau quantique, elle traverse en empruntant la dérive centre-guide pour franchir la barrière magnétique. Et donc, ce n'est pas une décroissance dans toutes les directions en espace qui nous intéresse. C'est une décroissance dans une certaine direction de l'espace des phases qui est celle de la dérive centre-guide. Et ça, c'est une partie du résultat qu'on a établi et dont je vais énoncer le théorème principal maintenant. C'est presque le théorème principal, ce que je viens de dire, d'une certaine façon. Tu voulais dire quelque chose? Alors, hop.
Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire?
Et combien de temps il me reste? Un quart d'heure. Bon, donc, vous aurez l'énoncé du théorème principal. Alors, le résultat principal. Alors, je vais pas énoncer toutes les hypothèses dans le détail, je vais plutôt les dessiner. Donc, il y a des hypothèses de symétrie sur le champ magnétique. Alors, je vais représenter les lignes de niveau d'un double puits. Donc, je vais dessiner un 8 déjà. Hop. Donc, vous avez deux minima, en haut et en bas. Hop. Donc, ça, c'est, ça, c'est Q1. Ça, c'est Q2. Vous avez la symétrie suivante. Alors, on va dire que vous avez la symétrie par réflexion du haut vers le bas. Et on va demander qu'il y ait aussi la réflexion de la gauche vers la droite. Pour se simplifier un peu la vie. Il y a deux minima qui sont supposés non dégénérés. On va prendre un potentiel vecteur un peu particulier. On va comprendre pourquoi ça joue quand même un peu un rôle, dans l'analyse en tout cas. Donc un choix possible pour A, eh bien, c'est une primitive de B dans la première variable. Voilà, on prend celui-là. Et on va faire des hypothèses d'analyticité, mais moins fortes que celles qu'il y avait là. Donc on va demander moins et on va avoir plus. Alors, analyticité. On va demander à ce que, par rapport à la première variable, la variable de l'axe de symétrie, eh bien, cette fonction soit analytique au voisinage de l'axe réel. On va demander à ce que ce soit une fonction analytique de Q1 dans une petite bande autour du réel. Et on va demander aussi que la dérivée par rapport à Q2 de cette fonction-là, qui se trouve dans le potentiel vecteur, elle-même a cette propriété. Donc on demande à ce qu'elle soit analytique au voisinage du réel. On demande que ces fonctions soient bornées sur toute cette bande sur laquelle on a étendu le B et le A. On demande à ce que la fonction B, étendue au voisinage dans C, là, eh bien, elle a des petites variations. Je prends epsilon, par exemple, entre 0 et 1. Donc, le champ magnétique ne s'éloigne jamais trop de sa valeur minimale. Et une dernière hypothèse qui est la plus importante, une hypothèse sur des lignes de niveau. De donc B de Q1, Q2 égale B0. Alors, cette ligne de niveau ici de B, si Q1 et Q2 se sont dans R, est très ennuyeuse, puisque vous avez uniquement ces deux points-là. Par contre, si Q1 commence à se promener dans C, génériquement, eh bien, il y a une courbe qui va les connecter. Alors, cette courbe, je vais l'appeler gamma. Donc, qu'il existe une courbe gamma. Alors, en fait, il se trouve que, due aux symétries, on peut imaginer qu'elle est aussi à valeur réelle, qui résout ceci. Donc, B de I de gamma de Q2, Q2 égale B0. Je vais dessiner gamma ici, hop. Q2 ici, gamma, c'est une courbe comme ça. Donc là, vous avez un certain point, c'est, on va dire que, là, leur donnée ici, c'est CD, down, CU, hop. Donc là, vous avez CD, CU. Vous avez une courbe comme ça qui relie les deux puits. Alors, donc, peut-être un petit mot, je reprends ma victime qui était juste là. Donc là, je suis au puits CU, disons, et Julien est ici, au puits CD, et cette courbe gamma, si on imagine qu'on met des plans complexes comme ça entre nous, tout un feuilletage de plans complexes jusque entre nous, eh bien gamma, elle se promène en fait sur l'axe imaginaire pur de ces plans complexes et connecte les deux puits. Et l'effet tunnel, c'est par là qu'il passe. D'une certaine façon. Alors, hop, donc j'ai ma courbe gamma, et maintenant je peux donner le théorème principal. Gamma de CD, ça vaut 0. Parce qu'ils sont sur l'axe des ordonnées, les minima. Alors évidemment, le fait que la courbe gamma, elle reste sur l'axe imaginaire pur, d'une certaine façon, que cette courbe elle passe par là, c'est l'hypothèse de symétrie dans la variable Q1. Parce qu'évidemment, si ce n'était pas tout à fait symétrique, bon, ça partirait un petit peu sur le côté, éventuellement. Et en fait, notre preuve continue à marcher, évidemment, mais c'est moins agréable à écrire. Et enfin, la quantité qui est fondamentale, c'est associée à cette courbe petit gamma, il y a une fonction, grand gamma, hein, qui est l'intégrale sur le segment 0 gamma de Q2 de B de IT Q2 dt. J'introduis cette fonction qui est définie comme ça sur l'axe Q2. Alors évidemment, en fait, contrairement aux apparences, c'est en fait une fonction qui est à valeur réelle et elle est strictement positive. Réelle, c'est à cause des symétries, justement, par le changement Q1 donne moins Q1. C'est réel. Et c'est strictement positif parce que B, il a des petites variations, donc il est toujours pas très loin de B0. Et donc, en fait, cette fonction en fait, reste toujours pas très très loin de B0. Et enfin, j'ai introduit un nombre que j'appelle S, qui est l'intégrale de cette fonction grand gamma. Entre CU et CD, c'est un nombre strictement positif. Et je peux énoncer le théorème qu'on a démontré, donc qui concerne l'écart spectral entre lambda 2 et lambda 1, qui est donc le terme dominant de l'asymptotique, quand h tend vers 0, eh bien c'est exponentiel de moins s sur h. Il y a une constante ici, c'est 0, strictement positive, et h puissance 3/2 que vous avez devant. Donc notamment, l'état fondamental, enfin, la première valeur propre, elle est toujours simple, quand h tend vers 0. Alors oui, au passage, ça contredit une conjecture qu'il y a dans le premier papier que j'ai mentionné, le Feuerheim-Oram. Il y a une remarque qui dit que l'effet tunnel, ça devrait être exponentiel de moins s sur racine de h. Alors bon, non, en tout cas pas dans cette situation générique. Et en fait, c'était déjà contredit par le travail de décroissance exponentielle que j'ai mentionné avec la transformée de FBI juste avant. C'était déjà contredit par ce résultat, au moins sous certaines hypothèses. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, et que j'ai le droit de demander combien de temps me reste-t-il ?
Depuis tout à l'heure.
7 minutes. Alors, je vais pouvoir dire quelque chose de la preuve, alors.
Tu vas expliquer le 3,5 ou...
Alors, le 3,5, ce n'est pas le plus embêtant, 3,5. ce que je trouve assez joli, peut-être je ne vais pas m'amuser à faire tout le détail de la preuve, mais ce que je trouve le plus joli dans cette histoire, c'est qu'on a fait une hypothèse d'analyticité. Et généralement, la première question qui vient aux personnes qui peuvent entendre ça, et moi c'est la première question qui me vient à l'esprit, c'est et si c'est seulement c'est infini, ça ne marche plus ? On ne peut même pas définir l'objet. Moi je trouve ça remarquable qu'on voit cette propriété d'analyticité dans le résultat d'asymptotique spectrale. Moi, ça me frappe, cette histoire. Alors, quelques idées. Alors, c'est le premier résultat d'effet tunnel avec des puits magnétiques dans un cadre un peu générique et qui relie la décroissance exponentielle de l'écart des valeurs propres qui le relie à un mouvement de la dynamique classique, notamment la dérive centre-guide. C'est ça qui est derrière ce résultat. Alors, comment on fait ? Alors, en 5 minutes... alors, 5 minutes, c'est audacieux. Alors, comment résumer ? La première chose qu'on fait... et ça, c'est une idée qui marche pour beaucoup de problèmes magnétiques, c'est qu'un champ magnétique, ici, c'est une fonction scalaire. Mais de façon générale, quand on est en dimension supérieure, c'est une deux-formes. C'est une deux-formes. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un système de coordonnées dans lequel la deux-forme, elle prend une forme sympathique, une forme canonique. Donc, déjà, ici, la deux-forme, c'est ça, ici, en dimension 2. Il y a une façon très simple de transformer cette deux formes en celle-ci, en intégrant par rapport à l'une des deux variables. Par exemple, on pose, par exemple, x1 égale à 2, x2 égale q2. On peut canoniser cette forme en prenant simplement ça. C'est des coordonnées, c'est le théorème, le lemme de Darboux, mais on dirait de façon directe. Et donc là, ici, on a un changement de variable, d'espace, et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le laplacien magnétique en un nouvel opérateur, qui est unitairement équivalent à l'opérateur initial, grâce au changement de variable. Et le nouvel opérateur, je vais quand même écrire à quoi il ressemble, c'est encore un opérateur différentiel d'ordre 2, et on peut l'écrire comme ceci, donc on va dire il devient... Eh bien, il devient quelque chose que je vais écrire de façon symbolique. Alors b de x1, x2 au carré, xi1 carré, plus, donc j'ai mis x1 moins xi2, plus une certaine fonction explicite alpha, xi1 au carré. Alors j'ai dit symbolique parce que tout ce que je veux dire par là, c'est que xi1 c'est moins ih dx1. et xi2, enfin xij, on va dire. Hop. C'est une façon condensée pour dire ça. Et une façon de faire ça, c'est d'utiliser la quantification de Weyl. Voilà, qui, je ne vais pas expliquer. Donc B, je l'ai mis avec un arrondi, c'est pas tout à fait le même que celui-là, parce que c'est B vu à travers le changement de variable. Donc maintenant, il faut étudier la théorie spectrale de celui-là à la place. Et alors, comment faire? On voit cette variable x1 moins xi2 qui apparaît, on a envie de lui donner un nom, de l'appeler y1. En fait, ça, c'est la variable, c'est la variable, c'est une des variables du mont cyclotron, en fait. C'est pour ça qu'on a envie de l'introduire. Et donc, on a envie de considérer cette variable comme une variable d'espace. Mais xi2, c'est une variable du côté Fourier. Donc, bon, mais ça, on peut le faire. On peut faire une transformation, on appelle ça une transformation symplectique, qu'on peut quantifier en transformation unitaire pour en faire, pour fabriquer un opérateur unitairement équivalent à celui-là. Qui a la forme suivante. Donc c'est toujours le quantifié de Weyl de quelque chose. Donc je fais cette translation en Fourier. Hop. Donc on fait ça. Hop. Donc là, je change juste un tout petit peu les noms des variables, mais j'ai utilisé ce qu'on appelle une transformation métaplectique pour le faire. Et puis, bien sûr, j'ai pas tout mis, hein, il y a des petits points aussi. Donc ça commence à ressembler à quelque chose comme ça. Et on procède uniquement par transformation unitaire. Hein. C'est que des opérateurs unitairement équivalents, donc on ne change jamais le spectre à chaque étape. Là, il n'y a pas d'analyse là-dedans. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on remarque ici que nous, on s'intéresse à des valeurs propres qui sont à peu près d'ordre H, en gros. Donc, la zone qui va nous intéresser, c'est celle où xi1 carré, il est d'ordre H. Donc, quand xi1 est d'ordre racine de H. Et quand x1 lui-même est d'ordre racine de H. C'est les zones caractéristiques. Et donc, ça suggère... C'est très formel, hein, je veux dire, il n'y a rien de rigoureux dans ce que je raconte, hein, je répète ça... qu'on a envie de développer le symbole de cet opérateur en x1, xi1 proche de 0. C'est ça que ça suggère de faire ça. Et donc on développe. Et on va obtenir un opérateur plus simple, peut-être un peu plus compréhensible. On va écrire ça. Je vais l'écrire comme ça. Donc L ressemble à un opérateur un peu plus simple que je vais écrire comme ça. Donc il ressemble à Weyl H de B de xi2 x2 au carré xi1 carré plus x1 plus alpha en xi2 x2 hop xi1 au carré. Il ressemble à ça. Alors, genre, il y a plein de petits points, je ne dis pas comment on contrôle les restes, rien du tout. Et ça, ça peut s'écrire aussi comme la quantification de Weyl dans la deuxième variable, de la quantification de Weyl dans la première variable, de la même chose. Et là, je commence à lasser mon papier parce que. Après, on. Ça ne sert à rien de donner plus de détails. Mais ce qu'on voit apparaître ici, si vous quantifiez par rapport à x1, comme fonction de x5, xi1, ça c'est une forme quadratique. Donc si je fais la quantification de Weyl, si je regarde l'opérateur associé à cette forme quadratique, c'est un oscillateur harmonique. Cet oscillateur harmonique, c'est celui du mouvement cyclotron dans la dynamique classique. Et les coefficients qui dépendent de la variable x de xi2, ce sont les coefficients qui déterminent la dérive centre-guide. Donc c'est ça qu'on aperçoit sur la partie principale de l'opérateur. Et ensuite, la question de la décroissance exponentielle, la question de l'approximation des fonctions propres, ça se réduit à une question d'ellipticité en fait, de cet opérateur, ou du moins avec tous les termes correctifs que je n'ai pas écrits, ça se réduit à la question de l'ellipticité de cet opérateur, que je vais appeler, mettons, M. Cet opérateur, après toutes ces transformations unitaires, eh bien, on introduit un opérateur conjugué, qui est l'opérateur sandwiché par un poids exponentiel qui ne dépend que de la variable de la dérive centre-guide, x2, qui est une variable en fait microlocale si on se place dans les coordonnées de départ, poids exponentiel phi de x2. Et toute la question de la asymptotique des valeurs des fonctions propres, leur décroissance exponentielle, relativement à la variable centre-guide, ça revient à analyser l'ellipticité de cet opérateur. Et pour ce faire, donc là, il y a toute l'artillerie de l'analyse microlocale. Eh bien, déjà, la première chose à voir, c'est que si je conjugue par un poids exponentiel cet opérateur, qui est en fait un opérateur pseudo-différentiel, eh bien, ça reste un opérateur pseudo-différentiel, parce qu'on a fait des hypothèses d'analyticité du symbole par rapport à la variable qui correspondait à Q1. Donc ça, c'est encore un opérateur pseudo-différentiel. Donc on peut faire l'analyse de son ellipticité en regardant l'ellipticité de son symbole. Et je pense que je vais m'arrêter là. On peut quantifier cette ellipticité avec une inégalité complètement explicite, avec un petit coup de théorème de Calderon-Vaillancourt, enfin deux, trois choses comme ça. Et je vais m'arrêter là.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.